cette voix céleste, oui, appartient à Elliott Maginot, qui est au bout du fil. Bonjour, Elliott.
Bonjour, bonjour.
Alors, votre album s'intitule Easy Morning, Matin Facile. C'est votre troisième album complet?
Oui, effectivement, c'est mon troisième.
Et comment le titre Easy Morning est apparu dans votre esprit?
Ben, c'est vraiment ça. Il est vraiment apparu dans mon esprit.
Ah oui?
C'est vraiment un de ces moments de création que tous les artistes connaissent de temps en temps. Une espèce d'idée ou une phrase ou un mot qui s'impose sans qu'on sache trop d'où ça vient. Puis je me souviens que quand j'ai proposé les premières maquettes à mon réalisateur avec qui je travaille, pour lui aussi, ce titre-là était très évocateur. Puis c'était clair pour lui que ça devait être l'espèce de mot d'or de l'album, puis le titre, évidemment. Fait que je pourrais pas vous dire exactement comment m'est apparu ce truc-là, mais ça s'est imposé de façon très, très claire.
Et Easy Morning propose 8 chansons, une très courte pièce instrumentale qu'on appelle aussi interlude. Et j'ai lu un peu sur vous, là. Vous avez écrit ces chansons-là dans un hangar communément appelé une shed. Est-ce que c'est
une
vrai?
Shed.
Et
oui,
pourquoi?
Oui, ben, c'est parce qu'en fait, quand je suis parti m'isoler à la campagne pour le premier confinement, moi, je pensais partir juste 2 semaines pour ma blonde revenait d'Europe là, pour la petite histoire, puis on pensait faire juste le 2 semaines de quarantaine obligatoire.
Oui, oui, oui. Votre blonde qui est choriste sur votre album, notamment.
Oui, tout à fait, effectivement. Puis, en fait, officiellement, le 2 semaines s'est transformé en 4 mois, donc j'avais pas amené ce dont j'avais besoin pour le travail que j'avais à faire. J'étais vraiment en mode abri de fortune puis tout, fait que j'avais besoin d'un endroit pour travailler, pour m'isoler parce que je peux pas travailler quand il y a des gens dans la maison puis tout, fait que il y a une petite chaîne à outils dans le fond du terrain puis je suis allé m'installer là avec ce que j'avais amené pour essayer de travailler un peu.
Dans la cabane du jardin.
Dans la cabane du jardin, exactement.
Puis, est-ce que ça, ben ça s'est bien passé étant donné qu'il y a eu accouchement de chansons, vous n'avez pas été dérangé du tout?
Ben c'est sûr que je
vous perds, Elliott. Oui.
J'en garde un grand souvenir d'avoir eu très froid. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que je retenterais, mais comme vous dites, c'est le processus qui m'a mené à l'accouchement. Donc, je change rien. Je pourrais revenir, je ne change rien, mais une fois dans une vie, je pense que c'est suffisant.
Et c'est drôle, Elliott, parce que je vous entends parler. Vous avez une très belle voix parlée et votre voix chantée est beaucoup plus haute. Est-ce qu'il y a une technique, je sais pas...
Non, il n'y a pas une technique particulière. Je pense que j'ai commencé... En fait, c'est vraiment le range,
le registre.
Le registre, voilà, merci.
Ouais.
Dans lequel je suis confortable. C'est pas quelque chose que je force. C'est le registre qui me vient naturellement. Après ça, peut-être que ma voix parlée, c'est mis dans le registre plus bas pour m'économiser pour quand je chante. Je ne sais pas trop. Mais oui, effectivement, il y a un grand écart de ma voix parlée puis chanter, mais c'est absolument pas... quelque chose que je force ou que j'essaye d'obtenir par différentes techniques. Là. C'est comme ça que ça se...
Oui.
C'est mon registre confortable.
Je pense qu'on on le ressentirait si c'était forcé. Là. On sent que c'est naturel. Vous êtes un mascoutin?
Oui, tout à fait, Saint-Hyacinthe. Ben, je suis un mascoutin exilé, mais oui, je suis né à Saint-Hyacinthe.
Exilé, ça veut dire quoi?
Ben, je suis à Montréal depuis 15 ans.
OK, d'accord, je comprends.
Ouais, ouais.
Et est-ce que c'est dans votre ville natale que vous avez appris l'anglais?
Ben oui, j'imagine que c'est beaucoup les influences que j'avais. Je pense que comme tous les jeunes, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'Amérique, puis mes héros musicaux étaient beaucoup anglophones. Fait que c'est beaucoup par la musique, puis par les films, puis par la culture que j'ai peaufiné mon truc, mais oui, je pense que ça vient de là.
Et votre carrière musicale, en tant que votre métier là, d'auteur-compositeur-interprète professionnel, a commencé quand?
Ben, je pense que la dernière fois que j'ai eu une vraie job, je pense que c'était en 2015. J'ai fait les guillemets avec mes mains.
Okay.
Mais la dernière fois c'est pas la musique qui me faisait vivre, c'était après le premier album là, qu'on a sorti en 2015. Après ça, j'ai pu laisser mon travail et me concentrer sur la musique à 100%.
Oui,
c'est à peu près 5 ans là, que c'est mon métier au sens pécunier du terme.
On va revenir sur Easy Morning, mais avant, il y a eu 2 autres albums. Puis tout a commencé en Beauce, où vous êtes fait remarquer. Puis ensuite, vous avez fait les premières parties de plusieurs artistes, Les Sœurs Boulées, Cœur de pirate. Vous avez fait le tour du monde, ou presque, là?
Ben, on a travaillé beaucoup, beaucoup en Europe, puis c'est au Québec, Canada, Canada anglais, puis tout un petit peu aux États-Unis. Mais oui, c'est vraiment une histoire de conte de fées, d'être à la bonne place au bon moment. Je savais faire un petit spectacle à Saint-Georges-de-Beauce, puis la directrice de l'étiquette de disque avec qui j'ai sorti mon premier disque était là par hasard avec un autre artiste, puis elle m'a vu chanter, puis on s'est rencontrés à Montréal deux jours après, puis j'avais jamais un contrat de disque. Ça s'est fait assez rapidement, puis assez naturellement.
Est-ce que vous avez des visées internationales?
Ben des visées, oui, dans la mesure où jamais je veux dire non à ce que ma musique soit entendue par le plus de gens possible, puis jamais je veux dire non à voyager pour faire de la musique. Après ça, j'ai pas non plus envie d'en faire une obsession. J'ai pas envie d'attendre après quelque chose. J'ai envie de jouer de la musique, en fait, c'est ça. Fait que ça [S2] Ouais. [S1] Soit au Québec, que ça soit partout, l'important, le but de tout ça, c'est de jouer de la musique, c'est de faire des spectacles. Fait que international ou non. Tout me va, mais c'est sûr que c'est une option qui est alléchante. Donc s'il y a des trucs qui se passent, on va toujours dire oui, c'est certain.
Parce que j'écoutais votre album, puis je pensais, sans savoir que le réalisateur qui a travaillé avec vous, c'est le même qui a déjà travaillé avec Charlotte Cardin, mais je me disais, il a un talent égal, mais vous n'êtes pas du tout dans c'est-à-dire que je me dis, il mériterait autant de projecteurs sur lui que Charlotte Cardin en a, parce que vous avez un vrai, vrai grand, grand talent. Et de plus en plus, on parle de vous, hein, vous le savez.
Ben, je sens qu'il y a un petit changement depuis la sortie du disque, mais c'est vraiment à tous les disques, ça fait ça de façon très graduelle, puis j'attends pas d'exploser ou d'être la prochaine sensation, la saveur du mois. Ça me va assez bien. C'est cliché, mais on dirait que je vise la longévité plutôt que l'ascension fulgurante. J'ai envie de faire ça longtemps. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir du plaisir aussi à le faire.
Ouais.
J'ai envie que ça soit ma job pour le restant de ma vie.
Alors, on vous écoute, puis on applaudit dans notre tête, parce que je pense
Merci
que c'est
beaucoup.
Une belle philosophie. Sur Easy Morning, on entend différents instruments de musique. Quelle ambiance vous aviez envie d'instaurer?
Ben c'était assez clair pour moi la direction que j'avais envie de prendre, beaucoup du côté des instrumentations, des arrangements. J'avais fait beaucoup de travail. C'est sûr que quand je fais mes maquettes, je travaille en MIDI, là, fait qu'on a, tu sais, j'ai accès à tous les instruments du monde au bout de mon clavier, puis des faux instruments logiciels. Fait que la direction était assez claire dans la mesure où je savais que je voulais beaucoup de cordes, puis que j'avais envie d'aller dans les sonorités. Je mets toujours des guillemets quand je parle de sonorités d'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai vraiment pas envie que les gens pensent que j'ai
vous accuse d'appropriation culturelle?
Ben, il y a cette notion-là, bien sûr, que j'ai pas envie de me faire taxer d'appropriation culturelle, mais je voudrais vraiment pas non plus qu'on pense que je prétends avoir compris comment cette musique-là fonctionne, puis que je fais s'approche de ce qu'on pourrait appeler le folk ouest-africain. C'est absolument pas ça. C'était plus que j'avais envie de jouer avec des joueurs qui jouent de ces instruments-là, puis des joueurs avec qui on se mêle peut-être moins dans la scène chanson québécoise.
Comme qui, par exemple?
Ben, c'est ça, moi, j'ai évidemment Elage Diouf, là, ouais. le maître percussionniste qu'on connaît, puis l'ancien collaborateur de Dédé Fortin, les Colocs et tout. Mais outre ça, c'est vraiment un musicien extraordinaire. Fait que juste d'avoir ce gars-là sur mon album, c'était déjà, on dirait que la moitié de la job était déjà faite.
Lui aussi,
juste
fait
de l'avoir en studio, juste d'être dans la même pièce que lui, j'étais comme, oh my God.
Ah oui.
Ouais,
ça élève.
Ça élève, puis ça ça apprend, ça m'a permis d'être témoin d'une autre manière d'aborder la musique, d'aborder le studio, d'aborder la création. On dirait qu'on est, ça allait plus du côté justement de jouer de la musique plutôt que de faire un assemblage en studio. Parce que ça peut souvent virer comme ça en studio, là, quelque chose de très stérile, je dirais.
Oui, surtout en temps de pandémie.
Ben oui, vraiment. Alors que lui, quand il est arrivé dans le studio, il venait jouer de la musique, il venait jouer de ses instruments, il venait. Il y avait quelque chose d'extrêmement puissant dans ça. Fait que lui, puis Lasso Sanou, Salé Sanou, qui est venu jouer des flûtes Pearl, puis de la Cora, c'est un musicien extraordinaire que j'avais jamais eu l'occasion de croiser, parce que c'est ça, on se mêle pas, chacun reste dans ses petites cliques. C'est un gars que j'ai trouvé sur Internet, je lui ai écrit comme ça, là, juste en lui demandant si t'es intéressé à venir en studio avec moi, puis ça a bien cliqué tout de suite.
Ben oui, c'est une belle leçon, ça.
Ouais, vraiment, il faut tendre des perches dans la vie. Ouais.
Et Elliot, vous dites que vous aimez laisser à l'auditeur ou l'auditrice la liberté d'interpréter vos propos. Vous ressentez pas le besoin à tout prix d'être compris?
Non, pas du tout. Je pense que ça serait une quête épuisante de vouloir être compris. Je pense que ça serait c'est un trou sans fond, puis c'est une illusion aussi de penser qu'on peut être compris, ou en tout cas qu'on peut être compris au même niveau qu'on voudrait être compris. Je pense que j'aime moi m'approprier les paroles des artistes que j'aime, puis des chanteurs, des écrivains que jamais j'aurais pas envie de me faire prendre par la main puis de me faire dire ben c'est ça que je voulais dire, c'est ça que tu dois ressentir en l'écoutant, puis ça c'est triste, ça c'est joyeux, ça c'est ouais. On dirait que ça m'intéresse pas. Puis de toute façon, je pense que j'ai pas cette plume là, j'aurais pas la capacité de faire du storytelling, comme ils disent, des trucs très très premier degré puis très très narratif. Je pense que c'est pas ma plume, donc j'ai pas envie de le forcer non plus.
Et je termine avec une question presque enfantine. Alors, si je vous demande en un mot, là, si votre album était une couleur, ce serait laquelle?
Brun.
OK.
Spontanément, je suis dans le brun, dans le beige depuis quelques années. Ma vie est un sous-sol de grands-parents des années 70. C'est ça, ma palette.
Bon, alors, il faut découvrir Elliott Maginot. Vous serez en spectacle aussi cet été, à commencer par... vous allez être à Cowansville en juillet, ensuite Pont-Rouge, Saint-Fabien, etc. Pour toutes les dates, vous allez sur elliottmaginot.com pour tout savoir ou presque sur lui. Merci pour cette entrevue.
Merci à vous, c'était vraiment le fun.
Bon succès, bye-bye.